Il y a une dizaine d'années, j'ai écrit une thèse, un doctorat sur la Nouvelle Revue de Hongrie, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. La thèse a été piètrement reçue, on peut dire, dans le petit milieu des historiens. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt parmi les littéraires que je me trouve, mais bon, j'ai choisi quand même un autre sujet, alors j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas. Vous auriez peut-être eu envie d'en connaître plus sur la revue de Hongrie. Bon, une autre fois. Aujourd'hui, je vais parler de deux rencontres littéraires entre Miklós Hubay et Marc Chagall et entre André Bajomilaza et Le Clésio. Au début des années 60, Miklós Hubay est venu rencontrer Marc Chagall à Saint-Paul-de-Vence. Une vingtaine d'années plus tard, à Nice, André Bajomilaza a quant à lui croisé Jean-Marie Le Clésio. Pour commencer, je décrirai brièvement le contexte culturel de leur rencontre, puis je m'intéresserai aux éléments saillants des comptes rendus qu'en ont fait les deux écrivains hongrois, et enfin je proposerai quelques enseignements au sujet des relations franco-hongroises, mais aussi des visions du monde archaïque et moderne, notamment en ce qu'elles peuvent concerner les questions de patrie et d'exil, mais aussi celles de succès ou d'accomplissement du destin de l'homme. Le contexte, tout d'abord, les années d'après-guerre en France, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, ont été celles de la croissance économique et du déclin culturel, signe parmi d'autres de la crise du monde occidental. Aujourd'hui, la croissance économique a montré ses limites. Le problème culturel, quant à lui, demeure. Le processus de décolonisation, on a parlé ce matin de colonisation, après la colonisation, c'est la décolonisation, bien sûr, ce processus est entré dans une nouvelle phase, soit celle de renversement entre les dominants et les dominés, soit source elle-même de nouvelles erreurs et d'injustices, bien sûr, soit celle du multiculturalisme. Une supercherie consistant à maquiller la faiblesse en indifférenciation, elle-même constituée d'une double tromperie. D'une part, la soi-disant célébration des cultures halogènes, souvent archaïques, dissimule en réalité l'idée que toutes les cultures se valent, dès lors que la culture n'est pas un critère de jugement valable. D'autre part, on feint d'ignorer que les cultures modernes, occidentales, françaises, entre autres, ont eu naguère, elles aussi, une époque archaïque. C'est-à-dire, dans ces conditions, que l'homme moderne est en exil de lui-même, tandis que, d'autre part, on ne permet plus à l'homme archaïque, ou resté archaïque, de connaître les plaisirs, pourtant mérités, de l'émulation culturelle. C'est à cette lumière, il me semble, qu'il faut comprendre, ou essayer de comprendre, le récit de leur visite en France par Miklós Hubay et André Bajomilaza. Je commence par les premiers, donc. Miklós Hubay et Marc Chagall. Dès le premier coup d'œil, Hubay remarqua sur le visage de Chagall sa grande fragilité. Je cite, « Ses yeux bleus sont comme un ciel d'avril où passent les nuages. » Pour se protéger de sa propre instabilité, le peintre avait coutume de tenir ses visiteurs à distance en jouant son propre rôle, celui de Chagall. Or, pour faire dérailler le stratagème, il a suffi que l'accompagnatrice de Hubay annonça qu'elle était, elle aussi, née à Vitebsk. Complètement déstabilisé, Chagall allait dès lors insérer des confessions sincères dans son humeur badine. Entre les deux côtés de sa personnalité, le principe liant, si l'on peut dire, était le goût et la dépendance du succès, qui relève à la fois de la sincérité et de la badinerie également. Deux aspects dans la discussion nous intéressent en particulier. D'une part, la France et Vitebsk, d'autre part, Chagall et les autres peintres, tels que les Nard, Hubay. Le thème de Vitebsk, en réalité, ouvre la perspective sur tout ce qui est originaire, authentique et, d'une certaine manière, inaccessible. Chagall ne souhaitait pas revoir Vitebsk. D'ailleurs, il a refusé de s'y rendre lors de son unique voyage en URSS en 1971, car il craignait que ce qu'il y verrait lui serait incompréhensible. Je cite « Ce qui forme l'un des éléments vivants de ma peinture s'avérerait ne pas exister, j'en tomberais malade. » Peut-être Chagall craignait-il non seulement que Vitebsk eût changé, mais que lui aussi ne fût plus le même. qu'il eût perdu la force d'imposer, y compris à lui-même, les visions de son imagination. Comment donc renouer le fil avec soi-même? Sans doute en explorant ses propres souffrances. Or, la souffrance est universelle. Elle peut se trouver partout où l'on va, du moins dans certains lieux privilégiés peut-être. En 1951, Chagall s'est rendu en Israël et il a écrit à des amis de New York, juifs russes comme lui, je cite, « on pleure ici avec des larmes de Vitebsk. Les larmes de mes parents et même celles de Bella. » Bella, si vous connaissez un peu Chagall, c'était sa première femme, sa muse. Comme une icône, elle était sa Russie juive portative. Elle est morte en 1944, peu après l'émigration du couple aux États-Unis. L'idée d'exil est permanente chez Chagall. Koubaï a bien remarqué combien le peintre accordait d'importance à l'expression « là-bas ». Chacun a son propre « là-bas ». Pour Chagall, c'était Vitebsk. Mais finalement, tous les « là-bas » sont de la même essence. Quand Chagall demande à Koubaï ce qu'il fait « là-bas », c'est-à-dire en Hongrie, le « là-bas » de Koubaï, Koubaï traduit tout simplement, dans son texte écrit en hongrois, par « halt ». Puis il se lance dans une digression sur ce que lui évoque l'expression française « là-bas ». Je cite « la richesse de la sonorité française, rien de plus qu'un mot très commun, mais ce mot est capable de briser le cœur ». Il brise le cœur parce qu'il signifie en quelque sorte, et là Koubaï propose une autre traduction, « haute lente ». Mais le dramaturge ne semble pas remarquer que finalement « haute lente », avec son idée de pente inclinée, de penchant intérieur, est littéralement équivalent à l'expression française « là-bas ». Haute là, lente bas. En dépit de l'exil, on revient intérieurement sur les lieux de son origine parce qu'une pente irrésistible nous y conduit. L'articulation artistique entre la nécessité d'enracinement et la charge du destin commun de l'humanité, pour tout artiste, est un sujet délicat que Miklós Koubaï aborde lors de sa discussion avec Chagall à propos du Bernin, le peintre. De l'artiste italien, Koubaï souligne qu'il a transporté en vain le baroque en France, car, je cite, « le rationalisme français s'y est opposé. Le processus de fécondation n'a pas eu lieu. » À propos de Chagall, en revanche, Koubaï poursuit ainsi. Il s'adresse à Chagall. « Vous, en revanche, vous avez réussi à introduire le rêve dans la peinture française. C'est à vous que l'on doit cela. » Et c'est donc pour cela que la France doit à Chagall une éternelle reconnaissance. Entre un pays et un artiste, certaines rencontres sont fécondes, d'autres ne le sont pas. À ce propos, mais pas tout à fait quand même, Chagall ajoute que non seulement la France, mais aussi, je cite, « le monde est à ses pieds, Israël, le Japon, etc. » Il semble que dans son esprit, le succès a deux sens indissociables. Le premier lié à la condition d'artiste, le second à celle d'exilé. Je cite la biographe de Chagall. « Pour ce juif errant, il y avait deux préoccupations, la sécurité financière et sa place dans l'histoire de l'art. » Fin de citation. D'ailleurs, Chagall considérait son propre cas comme paradigmatique. Van Gogh, selon lui, était l'exception confirmant la règle. Et quand l'un de ses visiteurs croit venu le moment de demander un coup de pouce pour un ami peintre, très mauvais moment, finalement, Chagall se récrit, je cite, « Vous voyez, je pense que s'il a véritablement de la valeur, il finira bien par s'imposer. Mon message pour votre ami, c'est que dans cette France merveilleuse, tout un chacun reçoit la reconnaissance qu'il mérite. » Une très élégante fin de non-recevoir. Miklós Koubaï note qu'en prononçant ces paroles, le visage de Chagall s'est peu à peu refermé sur lui-même. On évoque peu après le cas de Béla Tzobel. Chagall, qu'il a connu avant la guerre, creuse dans sa mémoire et finalement se rappelle. Zobel, alors, Koubaï transcrit phonétiquement le yiddish, c'est bien écrit. Bon, je ne peux pas le dire vraiment correctement. Donc, Zobel est un peintre authentique, un grand peintre, Formidable. Et alors, comme dans un rêve, tout se confond dans son esprit. Le succès sous ces deux espèces et même le pays, là-bas. Il demande, et dites-moi, il est un peintre reconnu, là-bas? Dans un trait de génie, Huwei répond que Zobel est non seulement reconnu, mais qu'il vit dans un petit village pittoresque, Saint-André, un peu comme ici à Saint-Paul-de-Vence. Alors Chagall s'apaise. Après un moment de silence, il ajoute « C'est un homme heureux ». La peinture, le succès, le village. La boucle est bouclée, mais pas pour Miklós Huwei, car ce dernier n'admettait pas volontiers l'idée, peut-être un peu facile, du bonheur domestique à la française allié aux entreprises artistiques les plus hardies. Simple envers de la bohème parisienne. Le hongrois est d'essence plus tragique. Il se rappelle un autre peintre, Imre Amos, qui a rencontré Chagall à Paris en octobre 1937. Et Chagall, touché par son art, lui avait dit « Sie müssen in Paris leben und arbeiten », c'est-à-dire « Venez à Paris, travailler avec nous ». En échange de ces encouragements, Chagall a reçu, selon Huwei, beaucoup plus que ce qu'il n'a jamais obtenu lors de ses meilleures ventes de tableaux. Car avant d'être déporté en 1944, Imre Amos, qui était juif, a écrit une dernière ligne dans son journal. Et la voici. Où est Chagall à cette heure? Est-on en train de briser les belles portes en acajou de son atelier, de son appartement? Ça rappelle vraiment ce que vous avez dit à propos de Rabot. Dans ce moment de désespoir, Imre Amos craignait pour Chagall, plus encore que pour lui-même. Huwei introduit une troisième dimension dans la notion de succès, une dimension exigeante, celle de l'altruisme. Et à travers cette idée, et à travers cela, l'idée que l'avenir doit mériter d'être vécu, ne doit pas seulement exister, mais mériter d'être vécu. Et cela grâce à l'art. Quand, 20 ans plus tard, André Bayomi-Lazar a rencontré Jean-Marie Le Clézio, cette dimension de l'altruisme semble bien avoir été présente. Bayomi attendait beaucoup de Le Clézio, tout en ne sachant pas exactement quoi. La rencontre eut lieu près du port, je cite. « Sur le quai des deux Emmanuels, j'aperçus un jeune homme au visage rose et aux yeux bleus, entièrement vêtu de jeans. Il se détachait de tous les demi-italiens qui s'affairaient autour de lui. Aucun doute, c'était lui. Du reste, Le Clézio s'est comporté de manière étrange. Écoutant à peine ce que racontait Bayomi sur la réception de son œuvre en Hongrie, qui passait au théâtre à Budapest à ce moment-là, ou celle de l'autre amant, qui était l'idole de Le Clézio, il dévoilait en revanche une obsession pour les sociétés secrètes, et il ne semblait rien connaître à la topographie de sa propre ville, Nice. La rencontre dura 10 minutes, car Le Clézio devait partir le lendemain au Mexique. Or, le soir même, pour ajouter encore à sa nature imprévisible, l'écrivain français, en compagnie de son épouse, passa à l'hôtel de Bayomi, où il déposa, en l'absence de ce dernier, 2 livres dédicacés à l'attention d'André Lazar, en souvenir de notre rencontre fortuite. 1 an plus tard, Bayomi, qui avait demandé un livre, service de presse, ne le reçut pas, mais il reçut, 6 mois plus tard, une carte postale du Mexique. Je cite. « Cher monsieur, je garde le souvenir de notre entrevue fortuite au cours de laquelle se sont mêlés les chants de mal d'aurore, les sociétés secrètes. Et je vous assure qu'il me ferait bien plaisir de vous revoir, peut-être au coin de la calle Resusteran ou du Paseo de la Reforma, là où se trouve le bâtiment gigantesque de la Loterie Nationale, ou peut-être à Nice ou encore à Budapest. Bon. Votre, en toute amitié, Le Clézio. » L'altruisme qui semblait avoir manqué à Chagall, du moins d'après Huwei, Le Clézio en avait à profusion, une profusion telle qu'elle semblait quelque peu arbitraire, culminant dans ce rendez-vous absurde et humoristique devant la Loterie Nationale de Mexico. Le succès semble avoir agi différemment sur Chagall et sur Le Clézio. Contrairement au peintre éternellement émigré, toujours inquiet, Le Clézio, jeune écrivain français, se comporte à la manière d'un enfant comblé, pour ne pas dire gâté, qui distribue de bonne grâce, au hasard, des récompenses à ses camarades, et pas forcément ce qu'ils ont demandé. Bayomi a bien remarqué cela, mais il se contente de l'interpréter avec bonhomie, comme une marque d'insouciance et de fantaisie. Ses caractères typiquement français lui plaisent. Selon lui, c'est même, d'une certaine manière, le gage de l'avenir de la France. Je cite « À mes yeux, Le Clésio est l'artiste dont la ville de Nice a besoin pour donner à son glorieux passé un puissant avenir. » Que nous enseignent ces deux anecdotes franco-hongroises? Au début des années 60, Miklós Hubay observait la symbiose accomplie entre Chagall et la France. Selon lui, le peintre avait beaucoup donné, le rêve, et en échange avait beaucoup reçu, le succès. Or, pour cela, Chagall avait dû sacrifier une part de lui-même, car c'est dans l'authenticité que se développe et se maintient l'altruisme. Le succès, pour être total, doit ramener aux autres et à soi-même. Où est Chagall à cette heure? Se demandait Miklós Hubay. Il s'est éloigné du pays, de là-bas, et de lui-même. À ce propos, je pourrais aussi évoquer un détail du récit de Hubay, apparemment accessoire, mais révélateur, je crois, des pensées paradoxales qu'un Hongrois peut avoir au sujet de la transplantation de l'authenticité culturelle, archaïque, vers une vieille civilisation moderne, la France. À midi, Hubay a déjeuné, je cite, « dans un petit restaurant fabuleux dont tout l'ameublement évoque le souvenir d'une cauchemar de chez nous. Souvenir, plutôt espoir, celui d'une auberge qui pourrait exister chez nous. » Autrement dit, Miklós Hubay, en France, a le souvenir d'un lieu hongrois qui n'existe plus en Hongrie. Or, sur les murs de ce restaurant de contes de fées sont accrochées des photos de célébrités des environs. Il y en a beaucoup, dont Gordon Gray, un metteur en scène anglais, alors âgé de 90 ans. Hubay fait l'hypothèse faussement naïve que le secret de la longévité se trouve dans les plats servis dans cette auberge, une auberge magique. Nous voyons tour à tour une cauchemar hongroise transplantée en Provence, Gordon Gray, qui vit dans le quasi-anonymat mais connaît le secret de la longévité, ou Chagall qui s'oublie. Autrement dit, plusieurs hypostases de la persévérance de l'être, mais dans une relation ténue, évanescente avec l'essence. Autrement dit, la forme figée, éloignée de son origine. Ou encore, le drame de la séparation moderne entre la forme et le fond. Certes, la liberté de la forme a ses avantages face au vieux Bayomi, engoncé dans ses antiques règles de la bienséance. Le Clésio montrait une aisance qui le posait en supérieur. Dans son rapport avec la culture, la civilisation a toujours le dessus, elle a un coup d'avance, car la technique lui facilite la tâche. Par exemple, le Clésio se promenait en jean, tandis qu'on imagine volontiers Bayomi contraint par son costume, sa cravate, peut-être son chapeau, en plein mois de juillet, ce qui donnait à Le Clésio une impression de supériorité. C'était son absence d'inhibition, son imprévisibilité. Il n'était jamais où l'attendait, là où l'attendait Bayomi. Cela dit, Le Clésio, quant à lui, a toujours senti que l'horizon français était insuffisant. Au moment de la visite de Bayomi, il se rendait au Mexique dans le but d'étudier les cultures précolombiennes. Étant lui-même originaire de l'île Maurice, il a aussi écrit sur la vie dans l'océan Indien. Il cherchait peut-être à renouer, sans doute, certainement, c'est ce qu'il a dit lui-même, à renouer avec ses racines, avec le caractère authentique de la culture. Au demeurant, dans son intérêt pour les cultures archaïques, et même dans ses jugements généraux sur la culture, il a fini par adopter des positions systématiques où la finesse de la poésie est en recul net face à l'idéologie. Je pense au sujet et aux questions de société à la mode que vous connaissez. Il n'est pas sûr qu'un nouveau Bayomi, aux années 2010, tomberait encore sous le charme de l'imprévisibilité de Le Clésio. À cet égard, Le Clésio nouveau attire notre attention sur une évolution qui paraît incontournable. La France ne sait plus tellement sur quel pied danser. Elle est prise d'effroi face à l'utopie moderne d'un avenir qui n'est plus tellement ouvert. Mais elle ignore aussi, ou feint d'ignorer, le refuge de son propre passé. L'image est tragique au sens propre parce que... L'impasse est tragique au sens propre parce que toutes les alternatives sont regardées avec suspicion, mais aussi parce que les questions d'identité profonde sont touchées. C'est la tragédie de la seconde moitié du XXe siècle dont j'ai parlé à propos de la crise moderne et son corollaire, la décolonisation, c'est-à-dire du rapport dénaturé aux cultures archaïques. En conclusion, je dirais que face au phénomène culturel français moderne, celui de la crânerie devenue un peu fragile, Miklós Hubay et André Bajomi-Lazar n'ont pas eu la même réaction. Hubay, penchant vers la mélancolie hongroise teintée d'ironie, a pensé au malheur de la vie authentique, personnifié dans le destin de l'artiste sacrifié Imre Amos. Bajomi, quant à lui, peut-être plus sensible à l'exubérance et à la fanfaronnade, non moins hongroise, a tourné autour de questions littéraires et d'abstractions humoristiques. Les deux hommes, toutefois, se sont heurtés à la même énigme, celle du succès français. Le succès de Chagall, qui vampirise le passé, personnifié par Vitebsk, le succès de Le Clésio, qui vampirise l'avenir, attribué à Nice. Chagall s'abreuvait largement à la source du passé, mais il regardait aussi l'avenir, à la fois avec espoir et défiance. Hubay nous met en garde. Si une certaine part de fragilité est propice, car elle permet aux cultures d'entrer en contact les unes avec les autres et de se féconder dans le temps, il est aussi possible qu'à force de fragilité, Chagall puisse finir par manquer d'assurance et de sincérité, d'humanité, jusqu'à la possible apparition fatale de la forme figée. Et le risque existe pour la culture française aussi. Le Clésio, quant à lui, tout entier tourné vers l'avenir, semble porter un regard quelque peu affecté sur le passé. Sa vision de la condition de l'homme moderne est confuse. C'est peut-être la raison pour laquelle il a cru, à contrario, devoir évoluer plus tard vers une certaine exaltation systématique de l'archaïsme extra-européen. Du reste, la mise en garde formulée par Bajomi, elle aussi est confuse, car le Hongrois ne parvient pas, quant à lui, à se détacher d'une admiration inconditionnelle, donc dangereusement penchée sur le vide, pour la culture française. Quoi qu'il en soit, les deux observateurs hongrois attirent notre attention sur le fait que l'art contrarie le temps, mais ne l'abolit pas. La traversée du temps pour une culture est une vaste entreprise. Pour la culture française, le cadre des relations franco-hongroises a été décrit naguère par Chandor et Carte comme étant celui d'un apport d'air frais par-delà les Alpes. Pour accomplir ce voyage lointain et hasardeux, il est sans doute favorable que la culture française soit légère. Elle peut aussi se permettre d'être fragile, mais pas inconsistante, car, n'est-ce pas, l'avenir est en jeu. Je vous remercie.